et tradition,
vérité et doctrine,
le dialogue des religions
sur la voie de l'Amérique.
Bonsoir à tous et bienvenue dans le dialogue des religions et sur VOA Afrique. Eric Manila Kidza avec vous. Gisèle Morissin assure la réalisation de cette édition. Ce soir, nous explorons le rôle du tombeau des Askia comme lieu spirituel et site de pèlerinage pour les musulmans de Gao au Mali. Et nous nous rendons donc à Gao, au cœur du Mali. Le tombeau des Askia est un monument construit en 1455-95. Par l'empereur Askia Mohamed, n'est pas seulement un symbole de la grandeur de l'empire Songhai, mais aussi un site spirituel et religieux important pour les musulmans de la région. Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce tombeau attire encore aujourd'hui de nombreux fidèles pour des prières et des pèlerinages. Mais qu'est-ce qui rend ce lieu si particulier sur le plan spirituel? Comment les communautés locales perçoivent-elles ce monument et quelles sont les pratiques religieuses qui y sont associées? Nous allons donc en parler avec nos deux invités. Lassana Cissé, expert en patrimoine et développement local, président actuel du Comité national malien du Conseil international des monuments et des sites, est avec nous en ligne. Monsieur Cissé, bonsoir et bienvenue.
Bonsoir, monsieur Eric. Comment allez-vous?
Ça va très bien. Merci encore une fois d'être là. Mohamed Abelari El Khalil, promoteur du Symposium du Sahel pour l'éradication de l'extrémisme violent, religieux et du terrorisme, est également avec nous. Mohamed, bonsoir.
Oui, bonsoir, monsieur Eric. Et bonsoir, monsieur Cissé.
Merci encore une fois d'être là. Alors, monsieur Cissé, je vais commencer avec vous. Voudriez-vous nous expliquer comment le tombeau des Askia est devenu au fil du temps un site de pèlerinage important pour les musulmans de la région d'Ogao?
Merci bien pour la question. En fait, l'Empire Songhai a acquis son apogée, comme vous l'avez si bien dit, sous le règne d'Askia Mohamed, qui a édifié les monuments qui portent donc son nom. Dire que le monument du tombeau des Askia est devenu un lieu de pèlerinage est de mon point de vue à relativiser. C'est vrai que c'est très fréquenté, c'est tant par le religieux que par d'autres visiteurs. Il est cependant vrai que tous les ressortissants de Gao, que ce soit de l'intérieur, de l'extérieur et sa région, accordent une importance particulière au monument qu'ils portent dans leur cœur en tant que symbole du patrimoine songhai et de la culture islamique. C'est simplement un témoignage exceptionnel de la ville et un lieu phare du développement et du rayonnement des traditions islamiques dans la région sahélo-saharienne et au-delà même dans les pays de la savane ayant connu le commerce transsaharien. Le tombeau des Askia, élément central de l'espace des grandes prières et fêtes musulmanes à Gao, reste un site d'attraction spirituelle, il est vrai, pour les héritiers de l'Empire et toutes les communautés de Gao, et aussi un endroit très touristique avant pour les nombreux visiteurs étrangers qui y affluaient avant la crise sécuritaire de 2012, j'en suis témoin. Donc, c'est le caractère spirituel, c'est un espace de prière, un espace de parce qu'il y avait des mosquées, la tour pyramidale au centre, et les cimetières et autres cimetières musulmans. C'est vrai que la spiritualité est de mise. Mais fondamentalement, pèlerinage, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cet esprit.
Oui, c'est très important de le souligner. Alors, quel rôle ce monument a-t-il joué dans la propagation et le renforcement de l'islam en Afrique de l'Ouest? Et en quoi est-il toujours un symbole de cette foi aujourd'hui, Monsieur Cissé?
Bon, aujourd'hui, vous savez, Askia Mohamed a été le 11e calife. L'islam a vu la grandeur et la puissance de l'Empire Songhai sous son règne. La religion musulmane s'est vite propagée dans tous les territoires occupés par l'Empire à l'époque. Donc, il s'étendait jusqu'aux rives de l'Atlantique. Le tombeau des Askia en tant que lieu de culte a contribué au développement de l'islam, ça c'est certain. À l'image de la grandeur et du renom d'Askia Mohamed dans toute la région du Sahel jusqu'aux côtes de l'océan Atlantique, comme je le disais. De nos jours encore, le tombeau des Askia en tant que monument religieux représente un symbole fort de l'expansion de l'islam, avec au centre la ville de Tombouctou et ses 333 saints, lieu de rayonnement intellectuel intense de l'islam, de la culture de façon générale, à l'époque, au cœur de l'Empire Songhai, Tombouctou. Bon, donc, je pense que c'est vrai, l'islam est toujours présent sur le lieu, très présent d'ailleurs, parce que toutes les grandes prières, que ce soit Tabasti et autres fêtes Baoulout, sont organisées sur place là-bas. C'est ce que je peux dire sur ce point-là.
Oui, nous essayons de joindre Mohamed. Nous avons un problème téléphonique avec lui, mais on essaie de rétablir la connexion. Monsieur Cissé, le tombeau des Askia a traversé des siècles de changements politiques et sociaux. Comment cette résilience a-t-elle renforcé sa dimension spirituelle et qu'est-ce que cela signifie pour les communautés actuelles?
Le tombeau des Askia a effectivement connu des changements tant politiques que sociaux depuis le déclin de l'Empire suite à l'invasion des Almoravides du Pacha Djoubdeur en 1591. Sous l'occupation marocaine, la population soumise était déjà islamisée et ont développé donc des réflexes d'adaptation aux traditions islamiques importées par les occupants, c'est-à-dire les Marocains, tentant de grandes variantes dans l'accomplissement du culte et du rite musulman. Il est fort probable que certaines pratiques considérées comme syncrétiques ou syncrétismes religieux ou animistes soient mises sous l'éteignoir, entre guillemets, en attendant un fléchissement et une tolérance des dirigeants de l'époque. Alors, le tombeau des Askia a toujours été un espace où sont organisés, je le disais tantôt, des événements culturels et religieux, comme les grandes fêtes musulmanes, mais également certaines pratiques et traditions sociales immatérielles, comme les célébrations des mariages, je le disais lors de la dernière émission, au cours desquelles des rites étaient imposés aux jeunes filles qui se marient. Par exemple, le rite de faire sept tours, le tour de la pierre blanche Tondikara qui a disparu miraculeusement. Et cette pratique a duré jusqu'en 1970. Ça veut dire qu'il y a une persistance, une résilience des communautés malgré la domination marocaine. Et après, c'est la domination tout couleur. Après, c'est la colonisation. Et jusqu'à l'indépendance, les communautés ont su savoir rester eux-mêmes dans leur tradition de pratiquer l'islam, et l'islam tolérant, et qui s'est adapté, qui s'est imbriqué dans les cultures locales. C'est ce que je pouvais dire sur ce point, cette question.
Oui, et quelle est la signification spirituelle du tombeau des Askia pour les musulmans de cette région de Gao?
Bon, le tombeau des Askia, le nom tombeau, c'est vrai qu'on parle de tombeau. Je crois que cette appellation, je l'ai dit aussi la dernière fois, ça a été du temps des colons, durant la période coloniale. On parlait des mosquées d'Askia, Askia Jira, à l'époque, on parlait de ça. Dans la partie description concernant le patrimoine mondial, dans la partie description du dossier et d'inscription du site sur la liste du patrimoine mondial en 2004, il a clairement été dit que l'ensemble, je cite, des sites, y compris médales, les deux mosquées, les cimetières de la mosquée, l'espace des assemblées en plein air, édifiés lorsque Gao devint la capitale de l'Empire Songhai, et après qu'Asiya Mohamed y fait de l'islam la religion officielle de l'Empire à son retour de la Mecque. Vous voyez, donc, cet aspect spirituel a été pris en compte dans les dossiers d'inscription, ça fait partie des critères d'inscription, et aussi un des trois critères, parce que le tombeau des Askia a été inscrit sur la base de trois critères, et un des trois critères, à savoir le critère 3, qui ont justifié l'inscription du site sur la liste du patrimoine mondial, fait allusion à la dimension spirituelle islamique du monument. Il s'agit donc de ce critère qui dit clairement apporter un témoignage unique ou du moins exceptionnel sur une tradition culturelle ou une civilisation vivante ou disparue. Donc le tombeau des Askia, dans sa dimension patrimoine mondial, le spirituel est bien pris en compte en tant qu'élément immatériel de l'histoire.
Nous avons rétabli le contact avec Mohamed. Mohamed, vous nous entendez?
Oui, Eric, je vous entends très bien.
Oui, Mohamed, selon vous, quelle est la signification spirituelle du tombeau des Askia pour les musulmans de Gao?
Alors, on dirait que ce n'est pas uniquement pour les musulmans de Gao, c'est les musulmans du monde entier, comme de l'Afrique subsaharienne, les musulmans également du Mali, à un sens, comme on appelle, spirituel, à un sens culturel, à un sens de bravoure, parce qu'on constate que des gens, même s'ils ont des soucis, souvent dans leur philosophie, dès qu'ils se rendent dans ces mausolées, au sein de ces mausolées, à faire des prières et des méditations, et avant leur même retour à la maison, ils disent que ces problèmes-là sont résolus. Donc c'est un attachement des âmes, des vivants à ce tombeau-là. Donc ça a un sens très très élevé et un symbole vraiment toujours conservé.
Oui, Mohamed, quelles sont les pratiques religieuses spécifiques qui sont observées par les fidèles lorsqu'ils viennent prier au tombeau des Askia? Y a-t-il des rituels particuliers liés à cet endroit sacré?
Alors, il n'y a pas de rituel particulier, c'est juste les rituels qui ont été recommandés par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et où des grands ulémas, tels que les quatre grands imams, chacun a donné des explications par rapport à ça, c'est-à-dire la visite des tombes fait partie de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour qu'on vienne se réchausser, on vienne vraiment penser à la mort. Dès qu'on rentre dans ces mausolées, on a directement une pensée très pieuse par rapport à notre vie existentielle, à notre vie terrestre, en se disant un jour même nous serons ramenés à être à cette place. Donc ça nous permettra vraiment de réfléchir et de revoir nos actions et des actes que nous posons au quotidien. Ça, c'est un premier aspect. Second aspect, les rites qu'on pose, c'est de faire c'est-à-dire des récitations coraniques, c'est-à-dire la sourate al-Fatiha, certaines lisent la sourate al-Yassine, certaines lisent la sourate al-Ikhlas et prient sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc pendant ces rituels-là, voilà un peu des rituels que les gens font. D'autres viennent encore en récitant la kalamatu shahada, en disant qu'il n'y a point d'unicité qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout en implorant pour eux-mêmes, et en implorant pour ces personnes qui sont dans ces mausolées.
En tant que site spirituel, Mohamed, comment le tombeau est-il perçu par les musulmans de la région de Gao et du Mali en général? Est-il toujours un lieu de recueillement et de prière pour les habitants locaux?
C'est perçu comme un lieu de recueillement, c'est perçu comme également un lieu d'histoire, un lieu où le Mali doit toujours, comme on l'appelle, mériter comment cette population datant à l'absence des réseaux sociaux, à l'absence de l'Internet, sont parvenus vraiment à avoir ces mausolées, à donner l'image d'une société bien organisée. Parce que dès qu'on regarde ces mausolées-là, on voit directement tout de suite une société organisée, une société qui avait un leader, qui avait un leadership et un charisme incontournable, qui est parvenu vraiment à séduire toute la communauté à le suivre et vraiment à placer l'islam et leur foi au sein de leurs préoccupations quotidiennes. Ça, c'est très important.
Nous explorons le rôle du tombeau des Askia comme lieu spirituel à Gao, au Mali. C'est le dialogue des religions que vous suivez. Eric Manilakiza avec vous. Josèle Morissin assure la réalisation de cette édition. Dassana Cissé, expert en patrimoine et développement local, le président actuel du Comité national malien du Conseil international des monuments et des sites, est avec nous. Mohamed Abdelhari El Khalil, le promoteur du Symposium du Sahel pour l'éradication de l'extrémisme violent, religieux et du terrorisme, nous aide à comprendre justement ce rôle. Monsieur Cissé, quelle est la place du tombeau des Askia dans la mémoire collective des musulmans ouest-africains?
Alors, le tombeau des Askia est un vestige matériel, hein? Témoin significatif du développement de l'islam en Afrique, dans la continuité d'ailleurs des royaumes et empires qui ont précédé donc l'empire Tongoï, entre le 11e et le 14e siècle, à savoir l'empire du Ghana, 11e siècle, à son apogée, et l'empire du Mali sous Tanko Moussa, au 14e siècle. Donc le monument est un site archéologique de grande valeur, qui est une référence historique absolue, attestant l'expansion et l'ancrage de la culture islamique pour beaucoup de musulmans ouest-africains, notamment ceux de la région sahélo-saharienne, c'est là-bas du lac Tchad, au côté de l'océan Atlantique, à l'ouest, du côté du Sénégal, etc. C'est les territoires jadis occupés par les grands empires de l'ouest africain. En fait, ce monument a ceci de particulier dans une société où l'oralité prédomine, hein, appartient beaucoup. Il y a eu des manuscrits, tout ça, Gao, certainement des manuscrits, mais qui ne sont pas très encore mis en exergue. Alors, la seule référence de l'histoire de l'Empire Songhai, c'est tout côté islam, c'est les mosquées, les deux mosquées avec la tour pyramidale au centre et les systèmes d'enterrement qui sont ceux de l'islam, des traditions islamiques. Donc ce tombeau, la place du tombeau dans la mémoire collective des musulmans, c'est une façon, c'est surtout de dire aux gens, c'est la lecture, voilà, la lecture de l'Empire Songhai, toute l'évolution, les dynamiques spirituelles, intellectuelles de l'époque. Ce que je peux dire sur ce point-là.
Mohamed, le tombeau est un lieu de convergence pour les croyants. Quels enseignements spirituels peut-on tirer de la continuité des affluences? On peut parler pèlerinage, un mot qui est contesté par Cissé, et donc la continuité des prières dans ce site, en particulier pour les jeunes générations.
Alors, la leçon qu'on tire, c'est de voir que Sonia Askia Mohamed était arrivé à l'époque vraiment de laisser un héritage incontournable derrière lui jusqu'à ce qu'aujourd'hui il n'est pas là. Mais l'héritage continue vraiment à marquer l'esprit, la foi, le travail quotidien, la réflexion quotidienne des uns et des autres. Donc voilà, aujourd'hui, c'est un appel pour nous vraiment de toujours travailler sur le quotidien des communautés, de voir comment est-ce que nous pourrons vraiment organiser des communautés. Même après notre absence, ces communautés peuvent vraiment continuer à véhiculer notre philosophie, à véhiculer notre façon de faire. Et c'est très important parce que quand nous regardons aujourd'hui, ces mosquées ont un sens très important et la communauté a un attachement dur vis-à-vis de ces mosquées.
En quoi le pèlerinage ou la visite au tombeau des Askia renforce-t-il la cohésion des communautés locales, Mohamed?
Oui, parce que c'est un lieu de rencontre où différentes communautés se rencontrent et partagent des moments de réflexion spirituelle et religieuse ensemble. Ça permettra aux fois de s'aimer, de s'embrasser, de se fortifier en crainte de Dieu et également en l'amour pour la patrie. Ça, c'est très important.
Quelles sont les menaces actuelles pesant sur le site et quelles initiatives existent pour le protéger?
Alors, il y a deux grandes, de mon point de vue, en tant que gestionnaire conservateur du patrimoine, il y a deux grandes menaces. La première menace, c'est que c'est le dérèglement climatique qui accélère le processus de l'ensablement, de l'érosion éolienne et même hydrique du site, et raréfie les matériaux locaux de construction, à savoir l'argile qui devient de plus en plus sableuse et les essences végétales originelles qui ont été utilisées, par exemple les boîtes d'échafaudage qui sont d'une espèce qui est en voie de disparition, qu'on appelle localement astou. Et ces matériaux sont nécessaires pour les travaux de maintenance. Ça, c'est la première menace. La seconde, c'est la pression anthropique qui constitue dans une moindre mesure une menace qui, si elle n'est pas surveillée, pourrait étouffer les sites. La pression urbaine autour de la zone tampon et à l'intérieur même du site, de la zone tampon du site, et les constructions anarchiques inadaptées qui se font jour petit à petit sont à prendre très au sérieux par le maire. Récemment, on était en comité de pilotage là, d'un projet de réhabilitation du tombeau la semaine dernière. À Bamako, les maires étaient là avec certains membres du comité de gestion du site. Alors, il y a des initiatives concernant justement les mesures et initiatives qui sont en cours. Il y a des initiatives d'intervention appropriées. Et suite à un financement de la fondation Alif. Alif, c'est l'Alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les zones de conflit. Le gouvernement malien, l'UNESCO et Cratère, c'est le centre de recherche d'architecture de terre qui est basé à Grenoble en France. Donc ces initiatives sont en cours pour améliorer l'état de conservation des sites du tombeau et à terme les sortir de la liste du patrimoine mondial en péril, liste sur laquelle le site est inscrit depuis le 28 juin 2012 sur la demande de l'État du Mali lors de la 35e session du comité du patrimoine mondial à Saint-Pétersbourg. Alors, le problème fondamental, c'est que les bois qu'on appelle torrents, les bois d'échafaudage, qui sont dans le monument depuis 1495 et au-delà, sont en train de pourrir. Et par moment, les populations essaient de faire remplacer ces bois par les bois d'eucalyptus inappropriés. Donc le projet a consisté à lever, à extraire ces bois d'eucalyptus et aller chercher très loin les bois astoula en question, qui est un bois très dur, pour les faire remplacer. Le travail avance très bien, à la satisfaction en tout cas du comité de gestion qui a participé à la rencontre, et aussi du gouvernement malien, le ministère de la culture, chargé de la culture. Donc il y a vraiment des initiatives et chacun travaille de son côté. L'UNESCO, le Centre du patrimoine mondial, le Fonds africain pour le patrimoine mondial, est basé en Afrique du Sud. Donc, toutes ces organisations ont aussi apporté des assistances financières internationales pour contribuer à la conservation durable du site dans un contexte de crise, comme vous le savez, multidimensionnelle, parce que ce n'est pas que la crise sécuritaire, il y a la crise du climat aussi. Donc, chacun y veille de son côté.
Oui, tant que vous avez la parole, selon vous, comment pouvons-nous continuer à préserver la signification spirituelle du tombeau des Askia, tout en garantissant sa protection en tant que patrimoine mondial?
Mais en fait, les deux sont indissociables, hein, c'est-à-dire la protection du matériel et de l'immatériel, parce que la spiritualité, c'est l'immatériel. Les deux sont indissociables. Et je l'ai dit dans mon introduction, le tombeau des Askia, l'appellation tombeau des Askia ne veut pas dire cimetière seulement, c'est un espace de prière, une grande place de prière, et où les hommes et les femmes ont leur espace, et au centre de la tour pyramidale. Mais il y a un grand espace aussi réservé pour la prière de grandes fêtes, pas seulement, mais pour d'autres événements spirituels, culturels. Donc les deux, la gestion des deux vont de pair. Toutes les actions conduisent à bien réguler, à bien faire en sorte que la mosquée, bah d'ailleurs, j'ai oublié de dire, avec les grandes fortes pluies cette année, le toit de la mosquée des hommes s'est effondré une partie. Et lors de la réunion, on a beaucoup insisté, il faut rapidement réparer ça, pour que disons la dimension spirituelle puisse se poursuivre. Si la mosquée s'effondre, c'est pas une bonne chose. Donc les deux vont de pair.
Oui, Mohamed, selon vous, c'est la même question. Comment pouvons-nous continuer à préserver la signification spirituelle du tombeau des Askia tout en garantissant sa protection en tant que patrimoine mondial?
Eric, je te ressens pas. Vous disiez.
Comment pouvons-nous continuer à préserver la signification spirituelle du tombeau des Askia?
Oui, moi je pense qu'aujourd'hui, les grandes personnes qui sont autour, comme on appelle, de ces mausolées, des Askia, doivent jouer un rôle d'agent de transmission. C'est-à-dire, je ne vais pas rester sous le contrôle de l'expert Cissé. Également, comme Cissé, comme tant d'autres, ils doivent vraiment véhiculer des messages positifs, des messages vraiment qui poussent les jeunes à comprendre quels sont ou quels ont été, c'est-à-dire les bienfaits de ces mausolées pour cette communauté, et quel est l'attachement de la communauté d'Atan pour ces mausolées, et comment les jeunes doivent être actifs pour vraiment comprendre l'excellence, la nécessité de veiller sur ces mausolées, de protéger ces mausolées, afin que les futures générations puissent aussi vraiment également veiller sur ces mausolées, comme aujourd'hui, la communauté aujourd'hui actuelle en train de veiller sur ces mausolées. Ça, c'est un aspect très, très important à souligner. Secondo, il faut vraiment qu'il y ait des modules au sein des universités, au sein des lycées, pour vraiment expliquer le contenu, le bienfait, le sens, la signification, les différentes parties de ces mausolées. Parce que moi-même, personnellement, je suis de Taoudeni, mais en écoutant Cissé dans ses différentes rencontres par rapport à cette émission, j'ai beaucoup également appris par rapport aux Askia.
Merci beaucoup, Mohamed. Le tombeau des Askia est non seulement un symbole d'identité culturelle, mais aussi un espace de transmission des valeurs religieuses et historiques. Merci à nos invités pour ces explications précieuses sur le rôle spirituel de ce monument emblématique. Que ce site demeure un symbole de paix et de recueillement pour tous. Merci à Lassina Cissé, à Mohamed Al-Khalil Abbelahi, Eric Mandela qui a été avec vous. Je vous souhaite une excellente soirée et à la prochaine.